Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Jean-Baptiste Etchéparébord. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Giuliani pour nous parler du bonheur selon Spinoza. Bruno Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour. Vous êtes, Bruno Giuliani, philosophe, professeur agrégé, docteur en philosophie, professeur didacte de biodanza, ce qui signifie que non seulement vous l'enseignez, mais que vous enseignez l'art de l'enseigner. Vous avez aussi enseigné 20 ans la philosophie en lycée, puis vous avez démissionné de l'éducation nationale pour vous consacrer à l'enseignement de l'art du bonheur. Vous nous direz si c'est contradictoire avec l'enseignement de la philosophie au lycée, mais en tout cas maintenant vous vous consacrez à l'enseignement à l'art du bonheur à travers des stages et des consultations. Vous êtes le créateur de ce qu'on appelle la biosophie, vous nous expliquerez en quoi ça consiste. C'est, mettons, une pratique philosophique que vous définissez comme une pédagogie de la sagesse par la culture de la joie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, s'intitule « Le bonheur avec Spinoza, l'éthique reformulée pour notre temps ». C'est paru aux éditions Almora et ça part de l'idée, pour reprendre les mots de Voltaire, que « Je ne connais que Spinoza à avoir raisonné, mais personne ne peut le lire. Et comme personne ne peut le lire, vous nous proposez un livre dans lequel on puisse le lire. »
Alors, je suis très heureux de vous recevoir parce qu'effectivement, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt et je fais partie de ces nombreuses personnes qui découvrent Spinoza un peu sur le tard. Ça n'avait pas partie des auteurs qui m'ont le plus marqué, peut-être parce qu'il est difficile à lire, qui m'ont le plus marqué dans ma formation philosophique. Et donc, avant qu'on puisse aller dans le regard que vous portez, d'une certaine manière, la reformulation que vous faites de l'éthique de Spinoza, on va parler de Spinoza lui-même et d'abord de l'homme. En quelques mots, rappelez-nous un peu à quelle époque a vécu Spinoza et quels sont les événements importants de sa vie qui peut-être ont une incidence, j'imagine, aussi sur sa pensée.
Oui, Spinoza a une vie tout à fait philosophique, tout à fait en accord avec sa pensée. Les événements marquants de sa vie, donc qui se situent au XVIIe siècle en Hollande, c'est donc une famille de juifs maranes qui a émigré du Portugal, qui a eu un long passé de persécution, un long passé d'obligation à pratiquer une religion d'une manière souterraine, de manière masquée. Et donc, la vie de Spinoza se caractérise surtout par un événement essentiel. À 23 ans, très jeune, il se fait excommunier, il se fait bannir de sa communauté sous l'accusation d'athéisme. Et donc, ce juif marane qui avait au départ eu une culture hébraïque classique a commencé très jeune à faire parler de lui comme un penseur de la liberté totale vis-à-vis de tout ce qui est dogmatisme religieux. Et ce penseur va refuser tous les honneurs, il va se consacrer qu'à une vie purement philosophique. On lui offre d'enseigner à l'université, il refuse, on lui offre même de l'argent, il refuse. Pour se consacrer uniquement donc à la recherche de la vérité, il lit Descartes et il est ébloui par la possibilité que propose Descartes de penser par soi-même et de découvrir la vérité par l'usage de sa raison. Mais à la différence de Descartes, il va suivre ce programme jusqu'au bout, en se consacrant donc toute sa vie à l'écriture, avec une profession remarquable, qu'on cite souvent comme étant une sorte de cohérence avec sa pensée, c'est qu'il va toute sa vie être polisseur de verres de lunettes. Il va fabriquer des lentilles, qui avaient d'ailleurs une très bonne réputation de qualité. Et donc, il va avoir une vie d'études en Hollande, aux Pays-Bas. Il va être très vite très célèbre en publiant quelques livres. Surtout un livre publié d'ailleurs sous un autre nom, enfin sans son nom, et qui est le traité théologico-politique, qui est la première critique rationnelle de la Bible. Et il va toute sa vie se consacrer à la rédaction d'un livre, surtout de son chef-d'œuvre, qu'il ne va pas publier, qui sera publié de manière posthume après sa mort, donc l'Éthique, publié en 1677. Et il meurt donc à l'âge de 44 ans, très jeune. Sans doute n'avait-il pas tout à fait terminé l'Éthique, d'ailleurs. C'était un livre sur lequel il travaillait, donc 16 années de travail. Et il avait donc déjà des disciples, des élèves, des personnes qui venaient d'Europe entière pour le rencontrer. On dit que Leibniz a fait le voyage pour le rencontrer. Et c'est donc une figure un peu presque mythique, dans le sens où il est un des rares philosophes qu'on peut considérer comme un véritable sage. Il a vécu comme un sage, dans la pauvreté, sans rechercher les honneurs ni les plaisirs.
Il a consacré sa vie à la recherche de la vérité, à la philosophie.
Exactement. Et il le dit dans une lettre. Il y a une très belle correspondance de Spinoza avec quelques lecteurs. Et il le dit, « La philosophie a fait de moi un homme heureux. »
Alors, ce qui est tout le programme de l'Éthique, donc son fameux livre, puisque il cherche à comprendre comment l'homme peut être pleinement heureux, atteindre la béatitude, la félicité sur Terre. Donc pas uniquement, évidemment, comme on le pensait à son époque, le bonheur n'existe pas vraiment sur Terre, ce qu'on peut avoir des plaisirs, mais le vrai bonheur, la béatitude, c'est dans l'au-delà. Et Spinoza nous dit non, c'est accessible ici et maintenant par un long travail, un long cheminement intérieur. Et cet ouvrage est très difficile à lire, on va en dire un mot, parce qu'il est écrit sous forme géométrique, avec des axiomes, des définitions, des démonstrations, etc. Est-ce que c'était nécessaire d'écrire cet ouvrage de cette manière aussi sèche? Pourquoi est-ce qu'il a fait procéder ainsi?
Est-ce que c'était nécessaire d'écrire l'Éthique de manière géométrique? Sans doute pas. Il aurait très bien pu avoir, comme la plupart des philosophes, un discours argumenté, rationnel, posant des intuitions et les développant de manière rationnelle. Mais ce qui fait la force en même temps de l'Éthique, c'est que, comme un traité de mathématiques, il est exposé d'une manière qui n'offre aucune discussion possible, dans la mesure où l'enchaînement des pensées se fait d'une manière qui est justifiée elle-même par la pensée comme découlant de manière nécessaire des intuitions nécessairement vraies. C'est pour ça que je disais qu'à la différence de Descartes, dans lequel il y a chez Descartes une volonté de vérité absolue, mais des opinions qui reviennent pour justifier certaines croyances, on pourrait dire que Spinoza ne propose que de la pure philosophie, de la même manière qu'on peut parler de pure mathématique.
Sauf que tout part de la véracité des axiomes fondamentaux. Donc quand il nous pose un axiome et qu'après tout découle nécessairement de ça, on peut ne pas partager, évidemment, le point de vue initial. Et c'est là qu'on rentre dans une critique qu'on a souvent fait après à Spinoza, comme à Leibniz, comme à Malebranche. Il y a tout un système métaphysique. Si on n'est pas d'accord avec les axiomes de base, tout s'écroule.
Alors c'est ce que j'ai cru longtemps. Et c'est ce qui m'a fait, moi, me méfier de Spinoza. D'ailleurs, c'est l'adage de Spinoza, hein, caoté, c'était « méfie-toi, sois prudent ». Surtout, il entendait un sens politique, mais on peut dire aussi au sens philosophique. Spinoza, c'est un penseur qui n'est surtout pas dogmatique. Il n'affirme rien de manière dogmatique. Mais il ne reste pas dans le scepticisme parce qu'il part d'intuition. Et il faut bien comprendre que la pensée de Spinoza se base sur des axiomes, des postulats, mais dont tous sont intuitifs. C'est-à-dire, et c'est la grande difficulté de compréhension de Spinoza, c'est pas simplement, comme je le dis dans la préface, une écriture un peu aride et difficile à suivre parce qu'elle est très conceptuelle et très démonstrative, mais c'est parce que Spinoza nous oblige à repenser la totalité des concepts du langage courant d'une manière intuitive. Donc, lorsque Spinoza propose ses premières définitions, notamment dans le premier livre, la première partie de l'éthique, qui est extrêmement difficile, il nous invite à cesser de penser avec nos habitudes de pensée, de nos croyances, de nos opinions, de nos préjugés et de nos idéologies, de nos philosophies spontanées, pour repartir de pensées nécessairement vraies. Et la première pensée qui nous invite à admettre au commencement de la philosophie, c'est la pensée de l'être infini, c'est-à-dire Dieu. Hein ? Et la difficulté est de bien comprendre quelle est cette intuition, cette première idée qui va se dérouler tout au long de l'éthique pour nous amener donc à la béatitude, au bonheur le plus grand, donc le bien suprême. Spinoza nous dit, il nous faut repartir que d'idées nécessairement vraies, intuitives, que je perçois comme nécessairement vraies au moment où je les pense. Ce qui n'est d'ailleurs pas une originalité de Spinoza. Descartes avait posé cela aussi. Et déjà, chez Platon, il y avait, et chez Aristote, chez tous les philosophes grecs, le désir d'une pensée qui soit purement rationnelle, c'est-à-dire qui s'apparaisse à elle-même comme l'espace de la compréhension de l'être.
Oui, mais pour en revenir à l'écriture et à la méthode, c'est vrai que moi, j'avoue que je n'ai pas franchi cette difficulté. J'ai lu évidemment Spinoza comme ça, par morceaux, mais jamais évidemment l'éthique d'un bout à l'autre, parce que pour moi c'est une entreprise quasi impossible. Pas seulement parce que c'est aride, pas seulement parce que c'est difficile, pas seulement parce que ça se présente comme de la géométrie et que ça me rappelle des mauvais souvenirs scolaires, mais aussi parce que justement cette présentation, quand il s'agit de philosophie, quand il s'agit de bonheur, quand il s'agit d'intuition, quand il s'agit d'expérience de l'infini, me semble complètement contradictoire avec le propos. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il m'enferme. Cette façon de raisonner, cette façon de dire axiome, scoli, etc., je le vis comme un véritable enfermement, pas du tout comme une libération. Alors que tout le discours va vers, il faut se libérer précisément de ces choses qui vous tiennent comme ça, par la mauvaise rationalité. Alors, comment répondre à ça ? Pourquoi il a donné cette forme enfermante pour tenir un propos libérateur ? Ça m'échappe.
C'est une excellente question. J'avais le même réflexe quand je lisais Spinoza, et comme vous, je butais, je ne comprenais pas, je me sentais enfermé, je préférais aller lire des philosophes beaucoup plus vivants comme Nietzsche ou Bergson, qui sont d'ailleurs des spinozistes. Et je suis venu en fait à Spinoza par Nietzsche et Bergson, avant Deleuze et d'autres contemporains. Et à chaque fois, je voyais qu'il y avait chez Spinoza une rigueur qui manquait à Nietzsche et à Bergson ou à d'autres, une rigueur de la pensée. Et ce n'est que lorsque j'ai pu moi-même faire l'expérience de cette pensée intuitive que j'ai eu l'effet libérateur, que j'ai senti qu'en réalité, en effet, Spinoza, de la même manière quand on fait des mathématiques, on peut se sentir gêné par la rigueur de la pensée mathématique. Et puis à un moment, on a l'illumination et là, tout devient clair, simple, transparent et on est libéré des opinions. On est libéré surtout, et c'est pas mince, on est libéré de toute la manière de penser basée sur la croyance. On est libéré de la croyance et libéré aussi, je voudrais dire d'emblée, que la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est en effet pour faire un travail modeste de pédagogue, de rendre Spinoza lisible et compréhensible, mais c'est aussi parce que je pense, comme beaucoup, que Spinoza et de tous les philosophes de notre tradition, le plus libérateur, celui qui amène la révolution conceptuelle la plus fondamentale et celle qui nous ouvre les portes non seulement d'une philosophie de la liberté, mais d'une politique, d'une religion, d'une éthique réalise le programme de la philosophie. Et donc, encore une fois, la difficulté est de comprendre ses intuitions.
Voilà. Et alors, comment distinguer entre ce que Frédéric appelait tout à l'heure des axiomes fondamentaux qui sont, effectivement, vous l'avez dit, des vérités intuitives? Quelle est la différence entre ça et ce que vous appelez les croyances dont il faut se libérer? C'est une forme de croyance aussi, d'adhérer à un axiome intuitif.
Non, pas du tout. C'est vraiment un point essentiel, et merci de poser cette question, parce que justement, tout se joue ici. Tout se joue vraiment absolument ici. Et c'est là que la philosophie, au sens de Spinoza, n'a rien à voir avec ce qu'on entend d'habitude par philosophie. C'est-à-dire un ensemble d'argumentations dont on ne sait jamais si on est vraiment dans le vrai ou le faux, qui aboutit à une forme d'idéologie plus ou moins vraisemblable. Je vous prends l'idée essentielle par laquelle Spinoza commence l'éthique. L'infini. Spinoza nous dit, il faut partir de l'idée d'infini. Et nécessairement, si je pense l'idée d'infini intuitivement, il n'y a pas de croyance sur ce qu'est l'infini. Je comprends que l'infini, par définition, contient absolument tout. Et donc, nécessairement, Dieu, qui, par sa définition même, est un être infini. Nécessairement, le concept intuitif de Dieu, c'est qu'il ne peut être qu'infini. Et donc, nécessairement, l'idée intuitive de Dieu implique que tout ce qui existe, de manière finie, existe en Dieu, et pas à l'extérieur de Dieu. Et là, simplement par le déroulement de la définition de l'infini et de la définition de Dieu, intuitive, il rase, il balaye complètement toutes les définitions de Dieu qui le situent, comme toujours, dans une transcendance métaphysique. Non, Dieu est immanent. Et c'est l'idée essentielle, c'est la première. Tant qu'on n'a pas compris que l'infini est immanent, que Dieu, la substance infinie, qui est créatrice de toute chose, n'est pas à l'extérieur du monde, mais à l'intérieur comme étant la substance même, tant qu'on n'a pas cette intuition, on ne peut être que dans la croyance. Et dès qu'on a compris cela, on ne peut plus le voir comme une croyance, on voit que c'est nécessairement vrai. Donc il y a un effet de libération. Dieu, c'est la totalité.
Et c'est de là que part toute son éthique repose, c'est parce que souvent on se dit c'est quand même très aride de démarrer par Dieu, il pourrait partir des passions humaines, qu'il décrit merveilleusement bien dans les livres 2 et 3 de l'éthique, il décrit parfaitement tous les affects, les émotions, les désirs, c'est beaucoup plus accessible. Mais pour lui, il faut partir effectivement de ce point de départ très très élevé qui est la conception ultime.
Oui, plutôt que conception ultime, il ne faut pas oublier que ce qu'il appelle Dieu, puisque c'est
la totalité
de cette, ce qu'on dirait,
la substance infinie, quoi.
Voilà, et ce qu'on dirait, d'où l'intérêt de mon travail, c'est que, en termes modernes, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle en physique l'énergie infinie. Il faut bien partir de ce qui constitue toute chose. Si je veux m'interroger sur les moyens du bonheur, qui est l'objet de l'éthique, il faut que je passe d'abord, nous dit Spinoza, par une connaissance de la psychologie humaine. Et en particulier dans la psychologie des affects, donc de l'affectivité. Mais pour comprendre les lois de la psychologie, il faut que j'ai d'abord les lois de l'anthropologie, de l'ensemble des lois qui dirigent l'être humain. Mais l'être humain fait partie de la nature. Et donc il faut d'abord que j'ai une physique. Et la physique n'est rien d'autre que la conséquence de la théologie, si on veut, c'est-à-dire de l'ontologie plutôt, de la science de l'être, mais pour Spinoza, Dieu et être sont synonymes, est synonyme de nature. Puisque, quand on a compris de manière intuitive ce que signifie l'être, on s'aperçoit que ce que le langage habituel appelle nature, ou Dieu, ou énergie, sont en réalité une seule et même réalité, et qui se comprennent, encore un point très important, de manière intuitive, hors du langage. La pensée intuitive se fait hors du langage. D'où la difficulté, en lisant Spinoza, de lire un livre écrit en langue, avec des concepts du vocabulaire courant, mais qui nous invite à penser d'une manière non linguistique, pensée intuitive.
Oui, alors, en vous lisant, j'ai fait énormément de ponts avec ce que je connais un peu mieux que Spinoza, c'est-à-dire le soufisme. En général, donc, que ce soit dans son versant persan ou dans son versant ibn arabiste, sachant que Ibn Arabi, donc le grand penseur andalou, le grand soufi andalou du XIIIe siècle, du XIIe-XIIIe siècle, a produit donc cette notion, ce concept qu'on appelle le monisme existentiel. Et ce monisme existentiel, il ressemble, comme deux gouttes d'eau, si j'ose dire, ou deux gouttes d'eau dans l'océan de l'être, à ce que vous venez de dire sur la pensée de Spinoza, avec cette différence qu'il n'en exclut pas la transcendance. Il ne pense pas du tout que la pensée de la transcendance est hors ce monisme existentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'immanence, il y a aussi de la transcendance, sauf que tout est englobé dans cette unité de l'être. Il n'y a absolument aucune possibilité de disjoindre quoi que ce soit de cet océan de l'être qui paradoxalement est transcendant et immanent. Donc vous voyez bien que là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de ponts qu'on peut faire, mais là il y a une séparation, parce que vous dites qu'il n'y a pas de transcendance possible dans la pensée de Spinoza.
Il y a une transcendance.
Et que ça, c'est de l'ordre de la croyance.
Pas du tout, pas du tout. Il y a une transcendance. Et là encore, il faut être très, très vigilant, prendre bien du temps. parce qu'on a toujours tendance à plaquer sur Spinoza ce qui n'en est pas. Je parlais de transcendance au sens métaphysique habituel.
Au sens théologique habituel.
Au sens théologique habituel. Où, quand je dis métaphysique...
C'est l'extériorité, vous parlez, en fait.
Voilà. Et c'est aussi, je dis métaphysique dans le sens où... quand on parle de métaphysique, en général, c'est ce qui n'est pas accessible à l'expérience. Spinoza nous dit que Dieu, en tant qu'infini, bien sûr que c'est la transcendance. La substance infinie est la transcendance. Mais il ne faut pas croire que cette transcendance, c'est-à-dire le caractère infini, le caractère éternel de Dieu, de la nature, que moi personnellement je préfère donc dans ce livre appeler la vie, comme étant un principe transcendant, il ne faut pas croire qu'il existe d'une manière extérieure à tout ce qui existe. La transcendance est dans l'immanence. Et donc, c'est ça qui fait l'originalité de Spinoza, c'est une immanence transcendante et une transcendance dans l'immanence. Et en fait, ces concepts-là ne sont pas du tout spinozistes. C'est nous qui avons besoin d'utiliser ces termes parce qu'ils ne les utilisent pas, Spinoza. Il parle simplement du fait que tout être fini est une détermination de l'infini et obéit nécessairement aux lois, alors dans le langage matérialiste, entre guillemets, les lois de la nature, dans le langage dit spiritualiste, les décrets de la volonté divine, mais le sens retrouve tout à fait les intuitions des soufis, et non seulement des soufis, mais de toutes les grandes sagesses. Et l'intérêt pour moi de Spinoza, c'est qu'il donne, dans le vocabulaire de notre tradition philosophique issue de la Grèce, et passant par le cartésianisme, une formulation très rigoureuse de toutes les grandes sagesses de l'humanité. Et donc, on a une sorte de cadre, de système qui est tout à fait révolutionnaire, mais qui ne fait que reproposer la grande révolution de toutes les spiritualités, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, qu'elles soient très anciennes, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, ou très récentes.
Ce qui est donc le plus utile dans l'existence est de perfectionner l'entendement, c'est-à-dire la raison, autant qu'on le peut. Et c'est en cela seul que consiste la plus haute félicité de l'homme ou béatitude. Car la béatitude n'est rien d'autre que la satisfaction de soi elle-même, satisfaction qui naît de la connaissance intuitive de Dieu. Or, perfectionner l'entendement n'est également rien d'autre que comprendre Dieu, ainsi que les actions et les attributs qui résultent de la nécessité de sa nature. C'est pourquoi la fin ultime d'un homme qui est conduit par la raison, c'est-à-dire le désir suprême grâce auquel il s'applique à diriger tous les autres désirs, est celui qui le porte à se concevoir adéquatement lui-même et à concevoir adéquatement tous les objets qui peuvent tomber sous son intelligence. Ce texte, qui est extrait donc de l'éthique, dans la traduction ici de Misraï, pas encore de la vôtre, nous montre que tout ce dont on vient de parler a quand même comme but ultime la béatitude. Et en fait, dans cette émission, on voudrait vraiment bien comprendre pourquoi la clé du bonheur chez Spinoza est dans cette compréhension fine, dans cette adéquation fine de soi à soi et de soi au monde.
En effet, je vous ai proposé de lire ce petit extrait, donc le petit chapitre 4 de l'appendice à la quatrième partie de l'éthique, parce qu'il résume vraiment tout le projet d'une connaissance rationnelle. Donc rien de plus utile et de plus nécessaire que de développer la raison, donc de philosopher au sens étymologique, c'est-à-dire de rechercher la sagesse. Spinoza s'inscrit dans la grande tradition philosophique, mais il montre que la possibilité ultime de la sagesse s'accompagne d'une qualité de vie, une qualité de réalisation de soi qui va complètement dépasser toutes les satisfactions toujours imparfaites, partielles, qui font qu'on ne se sent pas heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Pour Spinoza, comme pour tous les philosophes, c'est tout simplement un état de satisfaction complète. Et la grande originalité de Spinoza, sa grande simplicité, c'est qu'il s'aperçoit que le bonheur n'est fait finalement que d'un seul affect, qui est la joie. Et d'où vient la joie ? Alors, je pense qu'on peut aller directement...
Au conatus.
Au cœur. D'où vient la joie ? Il y a deux possibilités, dit Spinoza. Et cela se déduit, encore une fois, de tout l'appareil de démonstration de compréhension de Dieu, c'est-à-dire de la nature. Nécessairement, si on comprend la manière dont la nature est faite, toutes les réalités, y compris l'homme, obéissent aux grandes lois de la nature. Et la grande loi essentielle, c'est que tout être tend nécessairement à persévérer dans son être, il tend à continuer à vivre, et tout être va donc chercher à augmenter sa puissance. Et Spinoza nous dit, lorsque un être, comme l'individu humain, augmente sa puissance, il ressent de la joie. Lorsqu'il diminue sa puissance, il ressent de la tristesse. Et il y a donc nécessairement pour l'homme la recherche de tout ce qui augmente sa joie, qui augmente sa puissance, qui lui permet de vivre complètement, en langage simple, qui permet de réaliser son désir, car le bonheur n'est rien d'autre et la joie n'est rien d'autre que la réalisation du désir. Mais il se trouve que lorsque nous recherchons le bonheur, la joie, et nous réalisons les désirs, nous le faisons en étant dominés par des idées qui ne sont pas la vérité. Nous sommes dominés par les idées qui viennent de l'opinion, qui viennent donc de la manière dont spontanément nous pensons, nous développons des croyances, avec une partie d'idées vraies, une partie d'idées fausses. Et voilà pourquoi nous ne pouvons atteindre le suprême bonheur, qui est la joie la plus complète, le maximum de puissance, donc la sagesse, que si nous transformons nos idées inadéquates, les idées mutilées et confuses, comme il le dit, c'est-à-dire des croyances, des idées partielles, par un travail de réforme intellectuelle qui s'accompagne d'un travail de processus plutôt de libération des passions qui nous font souffrir, en un type d'affect qui sont les vertus. Donc je viens de vous résumer en une phrase toute la proposition de l'éthique qui est d'apprendre à penser de manière juste et tu vas transformer tes affects qui étaient passifs, les passions, avec certaines joies, mais surtout beaucoup de tristesse, de peur et de colère. Et de cette manière, tu vas comprendre que tu peux vivre en étant en harmonie avec les lois de la nature, en harmonie avec les autres et en harmonie avec toi-même. Et ce perfectionnement de la raison va s'accompagner d'une transformation intérieure, une libération intérieure, qui est en fait la libération spirituelle.
Et oui, là, on retrouve du coup une réorientation possible du désir qui permet d'aller vers un désir qui nous réalise vraiment, qui nous permet d'être dans la joie, et pas des désirs qui nous amènent vers des tristesses, parce qu'ils sont perturbés par des idées inadéquates, par l'imaginaire, par les opinions.
Tout à fait.
Et là, on peut dire qu'il y a quand même une influence déterminante de Spinoza sur Freud, sur ce que sera ensuite, je dirais, la découverte de l'inconscient. Spinoza nous dit sans le dire qu'on est mu par notre inconscient.
Absolument. C'est encore une grande originalité de Spinoza qui a influencé tout le 19e, tout le 20e siècle. Spinoza est vraiment le penseur pour moi essentiel à la Renaissance avec Descartes qui va ouvrir la modernité scientifique et philosophique et politique. Et en ce qui concerne cette allusion à l'inconscient, Spinoza nous explique, et c'est une autre idée fondamentale, que tout ce qui existe est déterminé par des lois de la nature. Il y a donc une nécessité absolue qui règne. En cela, il s'oppose complètement à la croyance dans le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Contrairement à ce que nous croyons, et qui est devenu une sorte de vérité dogmatique, véhiculée par le cartésianisme et par le christianisme, par les deux grandes idéologies idéalistes qui ont dominé le monde. Spinoza nous dit, à chaque fois que nous agissons et que nous croyons agir par un libre arbitre, un choix de la volonté qui n'est déterminé par aucune cause, en réalité, nécessairement, il y a toujours des causes à nos décisions, à nos choix. Donc nous croyons...
C'est un affect.
Et c'est toujours un affect. C'est pas que ça peut être. C'est toujours un affect. Il y a toujours nécessairement un affect, c'est-à-dire une idée de la pensée qui est liée à une affection du corps qui va être un désir. Et nécessairement, les hommes vont agir pour faire ce qu'ils imaginent leur donner de la joie. Alors, ce qu'ils imaginent, ça c'est le régime passif de la quasi-totalité, ou ce qu'ils comprennent, selon la raison, leur donner de la joie. Et cela seulement, est la liberté.
Oui, mais alors, ça quand même, ça pose d'énormes difficultés en pratique, ne serait-ce que parce que si on n'a aucun libre arbitre, si on est déterminé par des causes que quelquefois nous ignorons, et c'est vrai que nous ignorons la plupart des causes, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bien et de mal ?
Ça veut dire qu'il y a une redéfinition de la responsabilité, qui est d'ailleurs très simple avec Spinoza. Je suis responsable lorsque je peux répondre, c'est l'étymologie des responsabilités, de pourquoi j'agis, en expliquant la nécessité des choix qui orientent mon action.
Mais je quelquefois, suis responsable. La nécessité des choix m'amène à faire des choses terribles. Ça veut dire que ça justifie tout.
Ça veut dire que j'ai une illusion de responsabilité. C'est une responsabilité illusoire. Lorsque je fais quelque chose de terrible, qui n'est pas réellement bon pour moi et pour l'autre, qui donc ne me permet pas d'atteindre le bonheur, c'est que je suis dans une irresponsabilité. Je suis déterminé par des causes que je ne comprends pas.
Oui, mais je veux dire par là, socialement, est-ce que je suis, je ne sais pas, quelqu'un qui qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Prenons des exemples très, très dramatiques. Quelqu'un qui viole un enfant, il va vous dire, et moi je suis déterminé par des causes qui m'échappent, ce n'est pas mon libre arbitre qui agit.
Ah oui, mais là, on est d'accord.
C'est justement
ce qu'on dit.
Mais ça veut dire que ça justifie ça. Ça veut dire que c'est pas de sa faute, après tout.
Oui,
mais il est déterminé par des causes qui lui échappent. Alors donc, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Ça veut dire qu'il ne faut pas, de justice.
Il est irresponsable, oui.
Ah bon ? Donc il c'est pas grave.
Il est philosophiquement irresponsable. Maintenant, on peut dire que...
Si, c'est très grave.
Mais juridiquement, il va être condamné. mais il est mu par des pulsions, par des idées, par des croyances qui le rendent sadique ou qui vont le faire commettre un acte de violence sur l'autre dans lequel il n'a pas lui-même de liberté. C'est-à-dire qu'il est engagé, c'est ce que nous
disent les
arts.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de bien et de mal, en fait.
Alors, on va revenir sur la question du bien et du mal qui est seconde, mais je crois qu'il faut être encore là très précis. Justement, la personne qui agit en étant mue par une pulsion n'a pas choisi du tout. Il est donc irresponsable. La responsabilité suppose la liberté. Et donc, je ne suis responsable que lorsque j'agis par un désir que je peux rationnellement exprimer. Lorsque un violeur agit, il ne choisit pas d'agir. Il ne peut pas faire autrement. Il est mu par son déterminisme plus ou moins conscient et il ne peut pas justifier par un raisonnement éthique la valeur de son acte. Il est donc irresponsable. Et c'est donc très grave et il faut donc absolument
l'enfermer.
L'enfermer, l'empêcher d'agir car il est irresponsable. C'est une redéfinition de la responsabilité.
Oui, mais c'est quand même terrible parce que c'est une condamnation. C'est l'idée que eh bien, si on est né avec des déterminations sadiques, on ne peut pas à un moment ou un autre infléchir par une décision. Alors, je ne parle pas vraiment des perversions, de maladies, etc. Mais il y a des moments où on peut quand même choisir. On est déterminé par des pulsions, par des choses. Mais néanmoins, il y a un moment, il y a des gens qui disent non. Et il y a des gens qui disent oui, les mêmes facteurs de détermination.
Non, c'est une illusion. On ne peut dire non à une pulsion, Spinoza est très clair, il explique, et toute la psychologie le confirme, que s'il y a un affect plus fort qui lui permet de dire non, et cet affect, c'est l'affect qui naît de la raison. Et donc, quelqu'un qui naît, et nous naissons tous avec des pulsions qui nous poussent au plaisir de manière impulsive, va toujours pouvoir être éduqué à la force de la raison. Et donc, toutes les personnes qui sont mues par des pulsions et qui sont donc irresponsables, comme tous les enfants qui agissent impulsivement pour la violence, vont, grâce à une éducation, renforcer les affects actifs, c'est-à-dire la puissance de l'esprit que Spinoza appelle la raison, et donc les vertus, et au moment où ils sont mus par des pulsions, retenir cette pulsion, ces passions violentes, par des affects actifs, de prudence, de générosité, de douceur, qui vont faire d'eux des êtres responsables.
Et qui existent en tout homme.
Mais alors
absolument.
Là, on rejoint un débat sur Spinoza. Je pense à Robert Misrahi, qui rejoint Lélie là-dessus, et qui va dire, lorsque l'homme, par la raison, va faire surgir de nouveaux désirs, ce que nous dit Spinoza, la raison permet de faire surgir de nouveaux désirs qui vont permettre de changer, de progresser, de s'améliorer, d'aller vers quelque chose d'adéquat. Mmh. Pour Misrahi, il y a un acte de liberté. C'est-à-dire que le fait de pouvoir, et pour Lélie aussi,
oui,
c'est-à-dire
absolument.
Que le fait de dire non, là, je ne reste pas dans ce schéma-là, mais je veux progresser, en changer, je fais surgir de nouveaux désirs, donc c'est l'affect qui va me faire changer. Mais c'est la raison qui va choisir cet affect. Là, il y a acte des libertés. Et vous, vous dites, comme Spinoza, il n'y a pas de liberté.
Non, je dis comme Spinoza, il y a de la liberté seulement ici, lorsque j'agis par la puissance de la raison, et de ce fait-là, j'exprime ma nature, et je me sens libre. Il y a une vraie liberté. Cette liberté, c'est la liberté d'agir selon ma nécessité interne pour faire ce que je désire.
Donc, il y a une liberté chez Spinoza, alors.
Bien sûr. C'est tout le but. C'est de montrer qu'il y a une liberté qui n'est pas un libre arbitre. C'est une liberté qui est une libre nécessité d'agir, comme chez les bouddhistes, par la libre nécessité de sa nature. Donc, évidemment qu'il y a une liberté chez Spinoza, puisque toute l'éthique
vise à la liberté.
Vise, mais il n'y a de liberté que par l'action de la raison et par la sagesse.
Et à laquelle on doit s'auto-éduquer. Quand même.
Exactement.
Librement, à nouveau, consentir
c'est
à s'éduquer.
C'est la fameuse phrase qu'on trouve dans l'Évangile. Seule la vérité te fera libre. Le seul moyen de se libérer du déterminisme qui nous enferme, c'est d'affirmer le déterminisme qui me libère par la connaissance de la vérité de ce déterminisme. Et donc, il y a un sentiment de liberté. Et ce sentiment de liberté, c'est la joie d'agir en accord avec moi-même et en accord avec les lois de l'univers. Et je rajoute aussi une chose, c'est que la seule liberté chez Spinoza, c'est la liberté d'agir de manière créatrice. Il y a une créativité. Cette créativité, c'est la créativité de ma nature, qui est ma nature divine. Car la seule cause libre nécessairement, c'est mon énergie créatrice intérieure qui est Dieu, qui est le noyau divin de chaque être et qui est présent en chaque être. Passer sous silence un point essentiel. Je veux simplement rappeler qu'un autre grand apport de Spinoza, c'est de sortir complètement de la croyance quasi universelle qu'on appelle le dualisme entre le corps et l'esprit. Puisqu'il n'y a qu'une seule substance qui est Dieu ou la nature, nécessairement, cette substance unique se détermine à travers deux manières d'apparaître, qui ne sont pas séparés, qui sont le corps et l'esprit. Et le corps et l'esprit, nous dit Spinoza, ce n'est qu'une seule réalité. Et là aussi, il faut réformer entièrement nos compréhensions.
Surtout auprès des cartes.
Surtout auprès des cartes, puisque nous sommes tous, toute notre pensée est dualiste,
ouais.
Avec par exemple la philosophie d'un côté et la médecine de l'autre. Alors que le corps et l'esprit sont une seule réalité, donc séparés, ou la culture physique et la culture spirituelle. Donc c'est un grand apport de Spinoza que de nous inviter à nous repenser d'une manière non-duelle, non-dualiste. Et je termine aussi par cette question que vous posiez sur le bien et le mal. Il est évident qu'il y a des réalités plus ou moins bonnes ou mauvaises selon les personnes, puisqu'il y a des réalités qui vont augmenter ma puissance et d'autres qui vont diminuer ma puissance, qui vont m'amener au bonheur ou m'éloigner du bonheur. Mais nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas de bien et de mal dans la réalité. Dans la réalité, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a ce qui est tel que c'est nécessairement. Et donc il y a une invitation à se libérer du dogmatisme moral qui nous dit « cela est bien, tu dois le faire, et cela est mal, tu ne dois pas le faire », pour aller donc au-delà de la morale vers une éthique, de la compréhension, et une manière de vivre qui mette au premier plan les affects de joie, et de sagesse. Donc, on pourrait dire que l'adage spinoziste, qu'il résume de lui-même tout le temps, c'est bien agir, c'est-à-dire agir de manière raisonnable, et être dans la joie. Voilà l'invitation de Spinoza. Assure-toi que tu es vraiment en train de bien agir, d'agir d'une manière que tu puisses comprendre comme étant nécessairement juste, bonne et vraie, et que tu retires effectivement cet affect de joie qui est la base de la liberté.
La joie est en quelque sorte le critère de vérité aussi. C'est parce qu'on est dans la joie qu'on sent que c'est juste.
Une joie active.
Une joie active, oui. Parce qu'il y a des joies liées aux passions.
Il faut se méfier parfois.
Car
non, mais il y a des joies passives.
Il y a les joies passives. Et voilà pourquoi Spinoza, il est très, très pragmatique. Comme les épicuriens d'ailleurs, il est très proche des stoïciens et des épicuriens. Il nous dit il faut parfois préférer une tristesse ou une douleur à certaines joies ou plaisirs. Car nous comprenons que cette douleur, cette tristesse, par exemple, travailler est quelquefois nécessaire pour atteindre un bien supérieur, pour progresser. Ou, si je veux être heureux, je dois refuser certains plaisirs sensuels qui m'empêchent d'être dans une liberté supérieure.
Alors, évidemment. Quelle est maintenant la place de l'amour chez Spinoza ?
Eh bien, je dirais que c'est la place centrale. Car, en fait, la sagesse consiste à vivre le plus possible dans l'amour, car l'amour est une joie, définition intuitive, l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Mais de la même manière qu'il y a deux types de joie, les joies passives qui me rendent esclave et les joies actives qui expriment ma liberté, il y a deux types d'amour, l'amour passif et l'amour actif. Et donc la place fondamentale de l'amour chez Spinoza s'exprime par la compréhension que je ne peux atteindre le bonheur que si je me détermine à agir que par des affects d'amour actif. Et il y a, et là nous atteignons le point le plus crucial, surtout à la fin de l'éthique, dans la cinquième partie, la plus difficile et la plus extraordinaire, il y a une possibilité d'être déterminé à agir par un type d'amour qui est totalement actif et qui exprime la compréhension que j'ai de Dieu. Je peux être déterminé à agir par l'amour de Dieu. Et cet amour-là, l'amour le plus grand que nous puissions ressentir, nous libère totalement de la recherche de tout plaisir ou bonheur égoïste et sensuel et inférieur pour nous déterminer à agir toujours pour le bonheur de tous. Et donc cet amour qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, que personnellement je préfère appeler l'amour intuitif de la vie, car c'est en fait ce que nous ressentons, c'est l'amour de la vie, c'est-à-dire l'amour que au-delà de toutes les formes particulières, fondamentalement, la nature, Dieu, l'énergie est bonne. C'est la bonté
c'est
de la vie.
C'est comme ça que Montaigne le formulait. Il disait, pour moi, j'aime la vie.
Exactement.
Et donc, du coup, tout est joie quand on aime la vie.
Exactement. Donc, cet amour-là est décrit par Spinoza comme étant le grand principe de libération. Ce qui fait que Spinoza est beaucoup plus un philosophe de l'amour qu'un philosophe de la raison. La raison est ce qui va nous permettre de libérer la puissance d'aimer, un amour infini, un amour éternel, un amour qui va aussi nous libérer de l'ego, un amour qui n'est plus égoïste.
Et là aussi, c'est un point commun avec la tradition mystique soufie. Et donc, tout ce que vous dites, je précise quand même que dans votre livre « Le bonheur avec Spinoza », en fait, vous avez reformulé l'éthique avec vos propres mots. Donc c'est une sorte, je dirais, c'est plus une adaptation qu'une traduction. Et effectivement, il y a tous ces passages sur l'amour qui sont rendus beaucoup plus accessibles, effectivement, quand vous le dites avec les mots d'aujourd'hui et des mots un peu plus simples. En tout cas, cette question de l'amour, évidemment, on sent qu'elle est centrale et ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à Rumi, qui est vraiment le chantre de l'amour universel. Et en particulier un poème dans lequel on voit que, pour Rumi, en réalité, toute la nature, tout le cosmos en fait est mu par cette force qu'il appelle l'amour. C'est-à-dire qu'en fait même les atomes sont amoureux, c'est pour ça qu'ils dansent d'ailleurs, dit-il, au XIIIe siècle, il savait déjà que les atomes dansaient. En tout cas, et simplement à la fin du poème, il fait juste une mention d'un mot qui est le dépôt, qui veut dire la liberté. Et il dit la seule différence en fait entre l'homme et tous les êtres créés qui aiment, c'est que l'homme, il l'assume dans la liberté. Par ta musique, toi, eau vive d'immortalité, fais-moi bercer comme un moulin tourné. Pas une feuille ne peut sans une brise bouger, pas un fétu de paille sans ambre ne peut s'élancer. Si pas un fétu ne peut sans le vent s'envoler, sans le vent du désir, comment un monde pourrait-il s'ébranler? Toutes les parcelles du monde aiment d'amour, et chaque atome d'un beau visage est enivré. Mais ils ne te disent pas leurs états bien cachés, car aux méritants seuls se disent les secrets. S'ils n'aimaient pas d'amour, le firmament ne contiendrait pas en son sein la pureté. Si le soleil lui-même n'aimait pas d'amour, sa face n'aurait pas en elle cette clarté. Si la terre et les montagnes n'aimaient pas d'amour, les plantes de leur ventre ne pourraient pas pousser. Et si la mer n'avait eu vent de l'amour, elle aurait trouvé une attache où se poser. Toi, aime d'amour pour connaître l'amour. Sois fidèle pour voir la fidélité. Ce fardeau du dépôt, le ciel l'a refusé, car il aimait d'amour. Il eut peur de manquer.
Alors vous parliez, Lélie, de la danse des atomes. Rumi a fondé la confrérie des derviches tourneurs qui dansent. Et vous-même, vous êtes professeur de biodanza. Alors tout ça se rejoint. Pour terminer cette émission, en une minute, qu'est-ce que c'est que la biodanza et en quoi c'est une activité typiquement spinoziste ?
Eh bien, la biodanza, qui m'a apporté énormément, peut-être tout autant que la philosophie, et la philosophie de Spinoza en particulier, C'est une pratique qui vient d'Amérique latine, qui s'inspire d'ailleurs tout à fait de Rumi. Le créateur est un anthropologue qui s'appelle Rolando Toro, qui nous a quittés récemment.
Oui, et qui connaissait très bien Rumi, absolument.
Et que j'ai bien connu, j'ai co-écrit un livre d'entretien avec lui, et nous parlions, et il nous disait Spinoza, c'est vraiment le penseur qui m'inspire le plus. Et cette pratique a la particularité de mettre en pratique, en œuvre, toute cette invitation à percevoir intuitivement cette énergie de vie à travers la danse, à travers la musique, à travers la rencontre avec l'autre, à travers le regard, à travers donc une série d'exercices pédagogiques qui sont tous déduits d'une approche très scientifique, de la biologie, de l'anthropologie, et qui a pour particularité de cultiver justement les affects actifs, la partie saine de l'identité. Et donc la pratique de la biodanza, ça fait une quinzaine d'années que je la pratique dans un grand nombre de pays, car c'est un mouvement mondial, amène justement ce qui manque à Spinoza, c'est-à-dire la poésie, l'affectivité, la transcendance dans l'immanence de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cherché à créer donc une sorte de pont, d'intégration entre la biodanza qui est purement corporelle et pratique et la philosophie à travers ce concept de biosophie qui pour moi est la manière d'articuler l'intellect et le corps, le cœur.
De façon non dualiste justement.
Et de façon non dualiste, car je reproche un peu à la biodanza de justement être aussi que pratique et pas intellectuelle. En tout cas, j'invite ceux qui peuvent, qui veulent vivre Spinoza de l'intérieur, d'aller pratiquer la biodanza et d'avoir cet effet de joie et d'amour extraordinaire qui se libère très simplement, beaucoup plus simplement qu'en lisant l'éthique.
Très bien, nous avons terminé cette note joyeuse et j'imagine que vous avez un site internet où on peut retrouver
bien
les
sûr.
Tâches que vous faites ou les enseignements. Qui porte votre nom, Bruno Giuliani.
BrunoGiuliani.com et je lance un cycle de visioconférences pour permettre d'enseigner à ceux qui veulent comprendre Spinoza et développer la philosophie du bonheur et de la joie.
Alors, et puis, vous pouvez lire cet ouvrage, donc Le bonheur avec Spinoza, l'éthique reformulée pour notre temps de Bruno Giuliani. Merci beaucoup. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Emmanuel Ramsford pour parler de physique quantique et de spiritualité. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Excellent dimanche à tous.